Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 2 juin 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président Donald Trump a menacé de déployer l'armée pour faire cesser les violences dans plusieurs villes américaines. Le maire de New York a annoncé la prolongation du couvre-feu après les pillages hier soir à Manhattan. L'ONU annonce que les pouvoirs rivaux en Libye ont accepté de reprendre des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Les autorités sénégalaises ont reporté le retour à l'école prévu ce mardi car un enseignant a été testé positif et l'Indonésie renonce cette année au pèlerinage à la Mecque à cause du coronavirus. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le président américain a promis de restaurer l'ordre dans une Amérique en proie à un déferlement de colère. Donald Trump a évoqué la possibilité de déployer l'armée pour faire cesser les violences et les pillages. Jacques Aristide nous en dit plus.
À New York, plusieurs grands magasins de la célèbre 5e Avenue ont été pillés hier soir. La police a arrêté des centaines de personnes. Le couvre-feu, instauré dans la ville de 23h à 5h, va débuter dès 20h ce mardi, d'après le maire Bill de Blasio, qui assure que la métropole est totalement sous contrôle et pour l'essentiel calme et paisible. Une semaine après l'homicide à Minneapolis de George Floyd, un Africain-Américain de 46 ans asphyxié par un policier blanc, New York, Los Angeles et des dizaines d'autres villes américaines ont renforcé leurs mesures sécuritaires, décrétant ou rallongeant un couvre-feu nocturne pour vider les rues. À Washington, plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés hier soir pour violation du couvre-feu. À Saint-Louis, dans le Missouri, 4 policiers ont été blessés par balle et l'un d'eux est dans un état grave. Des centaines de milliers d'Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. Face aux troubles se surajoutant à la pandémie de coronavirus, le président Donald Trump a appelé les gouverneurs à agir vite et fort pour briser la spirale des violences. Si une ville ou un État refuse de prendre les décisions nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses résidents, je déploierai l'armée américaine pour régler rapidement le problème à leur place, a-t-il déclaré, dénonçant des actes de terrorisme intérieur, une déclaration condamnée par Joe Biden, son adversaire à la présidentielle de novembre. Les rivaux des États-Unis dans le monde, Chine et Iran en tête, n'ont eux pas laissé passer l'occasion non plus de critiquer Washington.
Par ailleurs, un homme originaire de l'État de l'Illinois qui avait apporté des explosifs à des manifestations dans le Minnesota a été inculpé d'incitation à l'émeute par les autorités fédérales américaines. Cet homme de 28 ans, Matthew Lee Rupert, a fait 500 km pour se rendre au sud de Minneapolis avec l'intention de piller et causer des dégâts, affirment les documents transmis à un tribunal fédéral hier lundi. Ce passage d'un État à l'autre donne au gouvernement fédéral le droit de le poursuivre. Les pouvoirs rivaux en Libye ont accepté de reprendre des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu, a indiqué l'ONU. Des précédentes tentatives ont toutes échoué. Éric Manirakiza nous en dit plus.
La mission de l'ONU se félicite de l'acceptation par le gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj et de l'armée nationale libyenne de Maréchal Khalifa Haftar de reprendre les pourparlers sur l'arrêt des combats. Aucune des deux parties n'a toutefois confirmé cette trêve et les combats se sont poursuivis près de Tripoli, la capitale. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, tente depuis avril 2019 de s'emparer de la capitale, siège du GNA, reconnu par l'ONU. Les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie appuient le camp Haftar, tandis que la Turquie intervient militairement pour soutenir le GNA qui a enchaîné récemment des succès militaires. Toutes les tentatives de cesser le feu ont échoué. La dernière en date remonte à janvier à l'occasion d'une conférence à Berlin. L'ONU appelle les États soutenant l'une ou l'autre partie à respecter les engagements pris à Berlin, notamment la résolution adoptée par la suite au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'arrêt des ingérences. Le retour aux discussions doit se traduire par un début d'accalmie sur le terrain et une trêve humanitaire pour ouvrir la voie à un cessez-le-feu définitif, souligne la mission onusienne.
Deux figures du mouvement de contestation en Algérie vont être libérées prochainement, a annoncé Sofiane Djilali, chef du parti d'opposition Djil Djadid, qui a intercédé en leur faveur auprès du président Abdelmadjid Tebboune. L'opposant affirme que le président l'a assuré qu'il userait de ses prérogatives constitutionnelles pour que Karim Tabou et Samir Benlarbi retrouvent leur liberté, tout en précisant qu'il n'interférerait pas directement en ce qui touche la justice. L'avocat de Félicien Kabouga, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda et arrêté en mai en France, a écrit ce mardi à un procureur de l'ONU afin que la justice internationale se dessaisisse du dossier. Devant la cour d'appel de Paris, qui doit se prononcer demain sur la validité du mandat d'arrêt, maître Laurent Bayon avait expliqué que son client, arrêté après plus de 25 ans de cavale, voulait être jugé en France. Au Soudan, le général à la retraite Yassine Ibrahim a été nommé ministre de la Défense après le décès de son prédécesseur en mars dernier, a annoncé l'agence de presse nationale Sunna. Monsieur Ibrahim remplace Jamal al-Din Omar, décédé de maladie chronique alors qu'il participait à des négociations de paix entre le gouvernement et des groupes rebelles soudanais à Djouba, au Soudan du Sud. La pandémie de coronavirus progresse en Afrique. Le continent a enregistré plus de 152 000 cas et plus de 4 000 morts selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
S'il y a désormais plus de 150 000 cas confirmés de Covid-19 en Afrique, le CDC africain précise également qu'au moins 63 000 personnes sont guéries, soit plus de 40% des personnes testées positives. L'Afrique du Sud reste le pays le plus atteint avec plus de 35 000 cas confirmés. Il est suivi de l'Égypte, du Nigeria, de l'Algérie et du Ghana pour ne s'arrêter qu'aux 5 pays les plus touchés. C'est dans ce contexte que les pays africains essayent de relancer prudemment leurs activités. Le Sénégal a annoncé quelques heures avant l'échéance le report de la reprise des cours dans les écoles prévues ce mardi pour des centaines de milliers d'élèves, invoquant la découverte de la contamination d'enseignants en Casamance dans le sud du pays. Le Cameroun et la Tanzanie, eux, ont franchi le pas en autorisant la reprise des cours depuis hier. Dans les deux pays, la décision est critiquée. Au Cameroun, il y a eu au moins 5000 nouveaux cas positifs depuis la fermeture des écoles. La situation est encore plus confuse en Tanzanie, où les cours reprennent malgré le manque de clarté sur l'évolution de la maladie. Le gouvernement ayant décidé de ne plus donner les chiffres pour éviter, selon lui, de semer la panique dans la population.
De nombreux Nigérians sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences contre les femmes après des viols et meurtres commis contre des adolescentes. Des hashtags pour Ouwa, Jennifer, Tina et d'autres victimes ont été partagés des millions de fois sur la toile ces derniers jours. Dans l'état de Kaduna, Jennifer, 18 ans, a été violée fin avril par 5 hommes après s'être faite piéger par ses agresseurs sur Facebook. Deux agresseurs présumés ont été arrêtés. La semaine dernière, dans l'état d'Edo, Ouwa, 22 ans, a été retrouvée morte dans une église après avoir été violée et frappée à mort par ses agresseurs.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Avec près de 376 000 morts dans le monde, la crise du coronavirus n'est pas terminée, mais plusieurs pays continuent leurs étapes de déconfinement progressif pour faire redémarrer l'économie. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Aux États-Unis, la plupart des comtés de Californie ont assoupli leurs restrictions permettant la réouverture des restaurants. Au Mexique, le coronavirus a fait plus de 10 000 morts, ce qui en fait le deuxième pays d'Amérique latine le plus endeuillé derrière le Brésil. En France, une étape majeure du déconfinement a été franchie aujourd'hui avec la réouverture des cafés, restaurants et collèges et lycées avec des règles sanitaires strictes. En Guyane, Mayotte ou en région parisienne, seules les terrasses peuvent rouvrir. À Singapour, les écoliers masqués ont repris les cours et un tiers de la population active est retournée au travail. L'Indonésie, qui compte la plus grande population musulmane au monde, a décidé de renoncer cette année au pèlerinage de la Mecque. Le premier mort a été recensé au Bangladesh, dans les camps de réfugiés, où près d'un million de Rohingyas vivent dans la promiscuité et une pauvreté extrême. Enfin, plus de 200 personnalités appellent à une réunion en urgence du G20 sans attendre le prochain sommet de novembre pour agir face à la pandémie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ekia Badou.
Le Mali a produit 700 000 tonnes de coton pour la saison 2019-2020, environ 6,6% de plus que l'année précédente, a annoncé lundi la Société d'État malienne pour le développement textile. Le Mali est l'un des quatre grands producteurs de coton en Afrique subsaharienne avec le Tchad, le Bénin et le Burkina Faso. L'objectif de la CMDT pour la saison prochaine est de 820 000 tonnes. La campagne cotonnière du Mali se déroule d'avril à mars en deux phases. Le Soudan, engagé dans le difficile recouvrement des biens mal acquis de l'ex-président Omar el-Béchir et de son entourage, mais beaucoup de ses avoirs seront difficiles à récupérer, estiment les experts. Depuis sa création, l'organe a saisi des hôtels, des centres commerciaux, des exploitations agricoles et des centaines de biens immobiliers de l'ex-président et son entourage, dont ceux de ses anciens ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Ali Karti et Abdelrahim Mohamed Hussein. L'Angola a demandé un allègement de la dette au G20 et en est à des stades avancés de pourparlers avec certains pays qui importent son pétrole sur l'ajustement des facilités de financement, a annoncé ce mardi le ministère des Finances. La troisième plus grande économie d'Afrique subsaharienne dépend fortement des revenus pétroliers, mais est aux prises avec des dettes qui dépassent sa production économique. Le pays souffre aussi des retombées économiques de la pandémie de coronavirus et de la chute des prix du pétrole qui a plongé sous la barre des 20 dollars le baril en avril.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On en sait un peu plus sur le nouveau contrat de l'entraîneur des Super Eagles, Gernot Rohr. Le franco-allemand a annoncé avoir fait des sacrifices sur son nouveau contrat. On doit tous faire des sacrifices et moi le premier, a déclaré le sélectionneur du Nigeria. De sources officielles, Gernot Rohr a concédé une baisse de son salaire mensuel de 55 000 à 49 000 dollars et a accepté de rester dans le pays au moins 10 mois dans l'année. C'est une très jeune équipe, mais la mission n'est pas encore terminée, alors nous voulons la poursuivre, a souligné le coach, dont l'objectif est de guider les Super Eagles vers une quatrième victoire en Coupe d'Afrique après les succès de 1980, 1994 et 2013. Le Nigeria est en tête de son groupe de qualification pour l'édition 2021, après avoir remporté ses deux premiers matchs contre le Bénin et le Lesotho. Face au geste de certains footballeurs en hommage à George Floyd, théoriquement passible de sanctions, la FIFA a appelé les organisateurs de compétition à faire preuve de bon sens et à tenir compte du contexte des joueurs de Schalke, Weston McKennie et de Dortmund, Jadon Sancho et le Marocain Achraf Hakimi ont témoigné de leur indignation en portant un brassard pour le premier et en dévoilant des messages sur des t-shirts pour les deux autres. La Fédération allemande de football a annoncé que sa commission de discipline se penche sur ces gestes d'hommage à George Floyd. En principe, la FIFA interdit tout geste ou message de nature raciale ou politique lors des matchs. Ici aux États-Unis, des désaccords entre la Ligue nord-américaine de football et le syndicat des joueurs, notamment sur le terrain salarial, menacent la reprise de la compétition. Selon la chaîne de télévision ESPN, alors que le syndicat a proposé d'accepter une baisse de salaire de 7,5%, la MLS veut que les coupes s'élèvent à 8,75%. La Ligue a fixé à mardi la date limite pour que le syndicat approuve ses propositions de modification, faute de quoi elle instaurerait un lockout, une grève patronale entendez. Autre souci de blocage, le syndicat rejette la proposition de la MLS qui accorde aux joueurs une part plus faible des revenus provenant d'un contrat de droit télévisé devant entrer en vigueur en 2023. La saison est en pause forcée depuis le 12 mars à cause du nouveau coronavirus. Seulement deux journées ont été disputées. À défaut de pouvoir reprendre, la MLS travaille à l'organisation d'un tournoi organisé à Orlando en Floride début juillet.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. À New York, plusieurs grands magasins de la célèbre 5e avenue ont été pillés hier soir. La police a annoncé avoir arrêté des centaines de personnes. Le couvre-feu instauré dans la ville de 23h à 5h lundi commencera dès 20h ce mardi soir, sur décision du maire Bill de Blasio. Les autorités locales pèsent de tout leur poids pour amener les manifestants à la raison. Pour une réaction, Bagassikoura a joint Dame Babou, résident de New York.
Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est vrai, et on peut diviser pratiquement l'événement en deux phases. La première phase, c'est que c'est la manifestation pacifique, les gens qui étaient sortis pour exprimer vraiment leur colère et leur désapprobation de ce qui s'est passé à Minneapolis et tout ce qui se passe dans le pays de manière générale. Quand il s'agit des relations entre la police et les minorités. Mais la deuxième partie, c'est après le couvre-feu, à partir de 23h, il y a vraiment de la casse hein, dans certains quartiers. C'était quand même sérieux, tel qu'à Brooklyn, pas loin de Berkeley Center, où il y a beaucoup de boutiques, ensuite, 5e avenue, et même Macy's a été cambriolé par les casseurs, et c'est venu jusqu'à Harlem et dans le Bronx. Donc, on peut dire que la deuxième partie a été violente. Même si elle est moins importante, il y a moins de personnes, mais de manière générale, comme c'est dans toutes les villes.
Et l'image qui a marqué les gens, c'est celle du chef de police qui est venu s'agenouiller devant les marcheurs.
C'est vrai que pour cet événement-là, ce qu'on peut retenir, c'est que de manière générale, le leadership de New York est du côté des marcheurs et des mécontents, à commencer par le gouverneur qui a insisté sur le fait que c'est beaucoup plus profond quand le noir qui a été assassiné par quatre policiers, c'est beaucoup plus profond ce qui se passe, l'inégalité, la pauvreté, la mauvaise éducation dans les quartiers pauvres. Et tout ça, il donne l'exemple de ce qui se passe avec la pandémie. Le maire de New York dit à peu près la même chose, que les manifestations sont absolument légitimes, même si tout le monde dénonce les violences. C'est ça qui se passe avec la police aussi cette fois-ci. La police de New York n'a pas toujours eu de bonnes relations avec les minorités, mais cette fois-ci, la police est carrément du côté des manifestants. Et je crois que ce comportement du chef de la police symbolise carrément cette situation cette fois-ci.
Et comment est-ce que les gens réagissent aux propos du chef de l'État qui menace de déployer l'armée?
Bon, de manière générale, les observateurs les plus avertis disent que le président Donald Trump est toujours égal à lui-même. Il parle à sa base. La minorité de 30 et quelques pourcents qui le supporteront de toute façon, tant qu'il montrera ce langage guerrier, si vous me permettez l'expression. Il est vraiment cohérent. Bon, cette menace-là, beaucoup diront que c'est pas possible. De toute façon, il peut avoir des pouvoirs de police dans la capitale parce que c'est une situation particulière. Mais dans les autres villes, comme New York, le gouverneur et le maire et les autres chefs des comtés n'écouteront pas Donald Trump et que c'est peu probable qu'il puisse demander à l'armée américaine de sortir dans la rue et de réprimer parce qu'il y a des conditions très très strictes pour faire descendre l'armée dans la rue.
Dame Babou, résident de New York, ici aux États-Unis.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum à ce jeudi. Gros plan sur les manifestations et émeutes qui se multiplient aux États-Unis plus d'une semaine après le décès de George Floyd, un Africain-Américain, lors de son arrestation par un policier blanc. Les protestataires dénoncent les brutalités policières et le racisme. Le président Donald Trump accuse les anarchistes et les médias d'alimenter la violence. La colère a également gagné de nombreuses villes ailleurs dans le monde. Nous attendons vos réactions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Nigeria, le gouvernement a déclaré que les lieux de culte sont autorisés à rouvrir ce mardi, alors que le pays entame sa deuxième phase d'assouplissement des restrictions. Le gouvernement a également ordonné la réouverture du secteur financier. Le pays a plus de 10 000 cas confirmés de coronavirus et près de 300 décès. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
Pour Boss Mustapha, président de la Commission nationale de lutte contre le Covid-19, la décision de rouvrir l'économie est basée sur la nécessité d'équilibrer à la fois les considérations économiques et la nécessité de contenir la pandémie. L'ouverture des lieux de culte sera basée sur le respect des directives mises en place par chaque gouvernement des 36 États de la Fédération nigériane. Les rassemblements de plus de 20 personnes sont toujours interdits, mais seront désormais autorisés sur le lieu de travail, dans les églises et mosquées. L'interdiction des voyages entre États reste en vigueur, à l'exception de la circulation des produits agricoles et pétroliers, ainsi que des personnes offrant des services essentiels. Les hôtels sont autorisés à rouvrir et le couvre-feu sera désormais entre 22h et 4h du matin. Sani Aliou est le coordinateur de la Commission nationale sur le Covid-19.
Je voudrais insister sur le fait qu'il est toujours prudent de rester à la maison pour éviter le public. La pandémie n'est pas encore terminée dans le pays et la décision d'assouplir quelques restrictions ne veut pas dire qu'il est sécurisé de sortir. Si vous n'avez pas besoin de sortir, restez à la maison.
Les écoles, cinémas, discothèques et les parcs resteront toujours fermés. Le gouvernement dit qu'il travaille avec le secteur de l'aviation pour la reprise éventuelle des vols domestiques à partir du 21 juin. Mais certains critiquent la décision des autorités fédérales de maintenir la fermeture des écoles. Azek Obasi est professeur des administrations publiques à l'Université d'Abuja. Je pensais qu'ils allaient faire la même chose pour les institutions scolaires, comme ils viennent de le faire pour les églises et les mosquées. Dans le secteur de l'éducation, je m'attendais aujourd'hui à voir le secteur privé reprendre. Ils ont les moyens pour respecter les mesures de distanciation sociale. Pendant ce temps, le gouvernement affirme que le port obligatoire du masque facial en public et le respect des directives de sécurité en matière de santé publique seront strictement appliqués dans tout le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Bukavu, en République démocratique du Congo, la première journée de confinement et d'isolement de la commune d'Ibanda, dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, ont été largement observées au centre-ville avec une forte présence policière. Mais il y a eu quelques résistances dans les quartiers populaires. Un reportage de notre correspondant Ernest Mouero.
Les habitants du centre-ville de Bukavu ont observé lundi la mesure portant isolement de la commune d'Ibanda dans le cadre des 15 jours de confinement de la ville décrétée par le gouverneur de la province du Sud Kivu. À première vue, les rues sont désertes, les magasins, boutiques et marchés fermés, les transports en commun et les autres activités commerciales ou administratives suspendues. La police veille sur les récalcitrants. Mais si tout se passe comme annoncé au centre-ville, dans les quartiers populaires de Ponzi, le constat n'est pas le même. Les activités commerciales, certes, sont suspendus, mais une frange de la population n'est pas restée à domicile. Justin Bahiroué, juriste et défenseur des droits de l'homme.
Dans les quartiers résidentiels et administratifs, la population a suivi. Mais Panzi et Sens, la population a mis de la résistance. La police a dû négocier, mais je pense qu'au bout du compte, lorsqu'il n'y a pas eu de solution appropriée, la police a dû recourir à des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. On a vu aussi une vidéo qui a circulé où la police a bousculé un passant au niveau du marché de Niawera. Et les informations à notre possession renseignent que le général de la police venait de donner des instructions pour qu'on puisse arrêter les policiers qui sont à la base.
Selon des sources de la division provinciale de la santé au Sud Kivu, ce confinement a permis à l'équipe de riposte COVID-19 d'organiser la visite de 240 personnes considérées comme ayant eu un contact direct avec l'un ou l'autre cas confirmé positif au nouveau coronavirus. Au marché de Niawera, où une équipe procède à la décontamination vaccination. Nous rencontrons le ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichisha, qui confirme le déploiement des équipes de riposte.
Une équipe est chargée du suivi des contacts, investigation des alertes, qui aussi à pied d'œuvre. Ils sont dans les ménages, ils sont éparpillés conformément aux adresses que nous avons eues. Certains sont partis dans le foyer, dans le fruit, qui a connu les cas confirmés. On est en train pour l'instant de décontaminer.
Dans plusieurs endroits de la commune isolée, la présence policière était très observée et de temps en temps renforcée par des éléments des forces armées de la République pour les contrôles si les personnes en circulation avaient l'autorisation. Dans les chapitres des débordements, on note l'interpellation à Panzi du journaliste Joseph Manegabé de la radio Sven. Joseph Manegabé.
Je suis en train de faire le reportage circulé pour voir si les mesures prises par les autorités ont été respectées. Maintenant, ce que je déplore, j'ai été vraiment interpellé par les éléments de l'ordre au niveau de l'essence. J'ai été retenu à peine une heure. Je n'ai pas pu même faire le reportage. Ils m'ont ravi le téléphone, un 10 000 francs, puis après, ils m'ont relâché. Et je ne suis pas content de ce qu'ils ont fait. La liberté de la presse n'est pas respectée. Vraiment, nous demandons encore une fois les autorités de mettre un accent sur la liberté de la presse en province du Sud-Kivu.
Signalons que dans la décision des autorités politiques du Sud-Kivu, la ville de Bukavu est isolée du reste de la province pendant 15 jours, suivie des couvre-feux et bouclage de 20h à 5h du matin. La commune d'Ibanda va connaître cet isolement pendant 3 jours pour espérer réduire la vitesse de propagation du nouveau coronavirus. À Bukavu, on a enregistré le 4e décès et une vingtaine de cas confirmés. Ernest Mouero, Bukavu pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Kenya, la pandémie de coronavirus a particulièrement frappé les camionneurs. Il y a des craintes que les conducteurs eux-mêmes soient infectés par le virus et le déplacement des marchandises tourne au ralenti en raison de la propagation de la maladie. Yakuba Ouedraogo nous en dit plus.
Bourbon Jagi, conducteur de camion, passe le temps avec ses collègues à la frontière entre le Kenya et l'Ouganda. Le contrat de ce Kenyan de 40 ans a été résilié après qu'il a mis trop de temps à livrer des marchandises à cause des restrictions liées au nouveau coronavirus. Bob Njagi.
Toutes les marchandises que nous transportions à Kampala ont dû attendre plus de 2 semaines avant de pouvoir passer de l'autre côté. Cela signifie donc qu'il n'y a pas de business et que nous sommes également sans emploi.
Habituellement, des centaines de poids lourds partent des principaux ports d'Afrique de l'Est, dont ceux du Kenya, pour livrer leurs marchandises dans toute la région. Mais avec l'avènement du nouveau coronavirus, les camionneurs de longue distance sont soupçonnés d'être porteurs de ce virus, ce qui a bloqué les activités aux frontières. Duncan Mutanga, conducteur de camion.
À la frontière, chaque pays a ses restrictions. Au Kenya, nous avons nos défis. L'Ouganda a son défi. Par exemple, lorsque nous arrivons en Ouganda, ils confisquent nos biens, disant qu'ils véhiculent le coronavirus et nous ne les rendons pas. C'est un problème partout.
La plupart des pays de la région ont restreint les déplacements pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Les routiers font partie des rares à pouvoir circuler et livrer leurs marchandises à l'ensemble de la région. Mais des tests réalisés aux frontières ont révélé un nombre de cas élevés parmi eux et mis en lumière les risques de les voir propager le virus. Cette situation a conduit les États à imposer des restrictions pour limiter la propagation du Covid-19. Désormais, les conducteurs passent plus de temps aux frontières pour se soumettre aux tests de dépistage au coronavirus. Certains sont ainsi obligés de faire des heures supplémentaires de conduite pour acheminer leurs marchandises à destination. Merci Aireri est de l'Association des transporteurs du Kenya.
Cela oblige les conducteurs à rester au volant pendant une très longue période. Et vous constatez que ces conducteurs souffrent de fatigue. Et ce n'est pas une très bonne chose d'avoir un conducteur fatigué sur la route. Donc, nous demandons toujours à nos gouvernements d'essayer de réorganiser leurs mesures afin qu'elles soient favorables à nos chauffeurs.
Une doléance qui ne reçoit pas pour le moment un écho favorable des autorités. Le porte-parole du gouvernement kenyan, Cyrus Oguna, soutient que les camionneurs doivent vivre avec ces conditions tant que le virus se propage.
Chaque chauffeur de camion doit être en mesure de s'assurer qu'il planifie bien son voyage afin qu'après 48 heures, il obtienne ce certificat de négativité au coronavirus pour pouvoir voyager. Cela signifie que pour les camionneurs qui pourraient avoir un résultat positif, ils ne seront pas autorisés à voyager. Puis après 14 jours, ils devront passer un autre test de coronavirus.
Les gouvernements de la région ont convenu de travailler ensemble et de partager les statuts des chauffeurs pour réduire le retard dans la livraison des marchandises.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.